Salut Guillaume.
Salut Marc.
Je suis ravi de te retrouver. On est toujours avec toi pour parler des champignons. Un nom vernaculaire ambigu, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom scientifique. On parle plutôt de mycète, de mycota, de fungi, qui est ce nom latin pour parler de nos champignons. J'avais dit que champignon, c'était un joli nom qui est très vieux, qui date du XIIIe siècle, qui vient de Campinolus, qui veut dire petit produit des campagnes. C'est là l'étymologie des champignons. Mais j'ai pas dit tout simplement que toutes ces histoires de mycètes viennent du grec mukès, et mukès en grec signifie exactement champignon. Toi, tu es mycologue, tu es un spécialiste des champignons, comme beaucoup de tes confrères. Guillaume, je rappelle qu'il y a 150 000 espèces de fungi, on va dire, répertoriées. Mais dans tes confs, tu attires l'attention sur quelque chose d'à la fois tragique et qu'on essaye de rattraper dans ces épisodes de Baleine sous gravillon, c'est que les champignons sont très déconsidérés, y compris des scientifiques et aussi de l'UICN, qui établit ces listes rouges du vivant en danger. Tu dis dans tes confs que il n'y a que 56 espèces de champignons évaluées par l'UICN, contre 25 000 plantes et 68 000 animaux. Comment tu expliques cette déconsidération?
Eh bien, en fait, comme je le disais précédemment, le champignon, sa forme principale, c'est cette forme de mycélium. Nos sens sont très très mal équipés pour reconnaître le mycélium. Donc, en fait, quand on veut faire un inventaire fongique, il faut se présenter à plusieurs époques. Et puis également, il y a ce côté très mystérieux des champignons, mais un petit peu comme les coraux qui peuvent coordonner leur reproduction à une nuit près comme ça et sur un espace planétaire. En fait, les champignons, il y a des années comme ça où il va y avoir une explosion de telle ou telle espèce qu'on n'avait pas vue depuis 20 ans. Et en fait, elle va complètement passer sous nos radars. Également, aujourd'hui, on commence à avoir plus d'outils pour séquencer un petit peu ce règne fongique. Et ça va être des outils notamment issus de l'analyse d'ADN. Mais les champignons sont encore très très largement méconnus, donc déconsidérés. Il y a cette citation qui est associée à Hermès Trismégiste, qui dit que la vie ce n'est pas la naissance mais c'est la conscience. Et je pense qu'en fait effectivement on a tendance à voir les choses vivantes à partir du moment où on a attiré notre attention dessus. Et les champignons aujourd'hui, il y a encore ce besoin d'attirer l'attention du grand public sur la diversité fongique et sur les capacités des champignons.
C'est tout l'enjeu de nos épisodes de la bien nommée Baleine sous gravillon, un titre que j'adore et que tu sembles aussi aimer. J'ai vu tes yeux tout à l'heure quand tu m'as dit il y a une autre grosse baleine sous le gravillon. D'habitude, je le fais en fin d'émission, mais là, moi qui suis le champion de la digression, je voudrais te le demander maintenant. Ça, c'est vraiment la question traditionnelle de tous les invités de Baleine sous gravillon. Tu le sais, tu as écouté quelques séries. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est maintenant que je te pose la question, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que t'inspire ce titre, Baleine sous gravillon? Il me semble que c'est vraiment un titre pour les champignons, je trouve.
Tout à fait, ça m'inspire énormément parce qu'en fait, il y a ce côté très paradoxal chez les champignons, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir un impact qui est extrêmement macroscopique sur notre environnement, notre climat. J'ai parlé un petit peu des 50 millions de tonnes de spores émises chaque année par les champignons, et en même temps, ce sont des êtres qui sont microscopiques, et si on ne se penche pas pour les observer, on passe complètement à côté. J'en veux pour preuve ce mycélium d'armillaire qui a été découvert dans l'Oregon, qui est donc un champignon parasite, l'armillaire, parasite et saprotrophe, qui va dégrader de la matière organique morte. Et donc cette armillaire fait 10 km carrés. C'est-à-dire qu'il y a un champignon, un unique individu, qui se propage comme ça sous 10 km carrés et qui a un impact à l'échelle d'un écosystème entier. Et pourtant, encore une fois, si on se penche pas dessus, et ben en fait, on passe complètement à côté. Et donc pour moi, c'est effectivement là une baleine sous gravillon, et d'autant plus que les champignons aiment les milieux humides, sans lumière, etc. Donc sous un gravillon, ça leur correspond parfaitement.
Oui, et ils n'aiment pas trop la chaleur, hein, c'est ce que tu disais. Moi, je repense à ces pauvres chauves-souris dont tu parlais dans l'épisode précédent, et qui sont infectées, infestées, et qui peuvent être sauvées dès lors qu'elles se réchauffent, parce que les champignons n'aiment pas la chaleur. Enfin, tu vois, dans la fameuse série The Last of Us, là, ben, ces champignons ont réussi à franchir cette digue, cette barrière, et c'est comme ça qu'ils arrivent à infester les humains. Que toi, tu as pas l'air de trop y croire, hein, tu nous l'avais dit, de ce fameux cordyceps là qui infecte des insectes. Les insectes sont froids. Et quelque chose que j'avais compris en faisant mes épisodes sur les abeilles, sur France Culture aussi, c'est que Tu le sais sans doute, les insectes ne sont pas dotés de systèmes vasculaires comme le nôtre. Leurs organes baignent dans un liquide qui s'appelle l'hémolymphe, qui est l'équivalent de notre sang. Et j'imagine que c'est plus facile pour un champignon d'infecter un insecte que d'infecter, on va dire, des êtres plus complexes, plus complexifiés. Je vois que tu fais oui de la tête.
Oui, alors je n'aurai pas la réponse avec une exactitude scientifique extrême, mais c'est vrai qu'on est des êtres qui sont assez complexes d'un point de vue immunitaire, et donc nous on a des ganglions lymphatiques, on a des cellules dédiées à cette défense immunitaire, on a des anticorps spécifiques, etc. Et donc ça me semble être quand même une dimension tout à fait différente entre infester un insecte et infester un corps humain, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun champignon qui sont capables de le faire. Il y a des mycoses qui infectent les humains et c'est un problème.
Guillaume, il y a une autre anecdote que je voulais raconter à l'orée de cet épisode, avant qu'on enchaîne sur ta célèbre philosophie du mycélium que j'ai adorée, qui est une grande partie de ce cours que tu as fait pour Sator, qui est un organisme. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller écouter ce que fait Sator. Ce sont des cours sur des domaines très variés. Et toi, tu vas me donner 10 heures d'un cours qui est entre guillemets diplômant et qui permet de mieux connaître les champignons. C'est pour ça que tu es notre spécialiste. Je rappelle que tu es un ami de Pierre Gilbert avec qui on a fait d'autres épisodes dans Combat, pour le coup, sur le géomimétisme, c'est-à-dire tous les moyens qu'on a d'influer positivement sur le climat sans en passer par ces solutions techno, qui sont des remèdes qui sont pires que la maladie, finalement. Tout ceci étant rappelé, Guillaume, en anecdote, j'avais aussi envie de parler d'Ötzi. Ötzi, qui est surnommé en français Hibernatus, qui est un homme qui a vécu il y a 5000 ans, qu'on a retrouvé à la frontière de l'Italie et de l'Autriche en 1991. Et si je parle d'Ötzi, c'est parce qu'il trimbalait des champignons sur lui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Cette anecdote est extraordinaire. Ça montre l'importance oubliée des champignons. C'est-à-dire que nos fameux ancêtres, qui étaient beaucoup plus proches du vivant que nous, eux le savaient déjà. C'est-à-dire que s'ils ne les trimbalaient pas pour décorer, évidemment, c'était pour pouvoir se soigner. Et on pense même que c'était des vermifuges. C'était pour sa digestion, pour sa santé.
Oui, effectivement. Alors, Ötzi trimbalait avec lui deux espèces de champignons. Le Piptoporus betulinus, le polypore du bouleau, qui est reconnu aujourd'hui pour ses propriétés antiparasitaires, et également il trimbalait avec lui du Fomes fomentarius, qui est l'amadouvier, et c'est le champignon qui nous aurait servi à domestiquer le feu. Donc ce fameux amadouvier, en fait, à l'intérieur il y a une ouate qui est extrêmement dense, et qui va prendre et conserver très très longtemps les étincelles, et donc en fait si on embrase un morceau d'amadouvier, le feu va se propager très 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 lentement à l'intérieur de cette ouate, ce qui va nous permettre comme ça de transporter le feu. Et puis également, au besoin, l'infusion d'amadouvier est extrêmement antivirale. Donc si vous vous prenez un mauvais rhume, peut également servir de tisane, remède. Donc ces deux champignons, en fait, étaient extrêmement importants pour la survie à une époque où on n'avait pas toute la pharmacopée qu'on a aujourd'hui. Je parle de la pharmacopée allopathique, c'est l'issue de la chimie et de notre compréhension des molécules. Et donc Ötzi, en fait, trimbalait effectivement très précieusement avec lui ces deux lanières de champignons.
Ok Guillaume, on va tenir notre promesse dans le dernier épisode de cette première série. On va parler de la philosophie du mycélium. C'est le premier chapitre de ton fameux cours là, de Sator. Et bizarrement, tu commences par Newton. Les philosophes de la nature, c'était une époque où les penseurs s'emparaient un peu de beaucoup de sujets. Donc, par quoi tu commences effectivement cette philosophie du mycélium que je devine, pourquoi tu commences par ça?
Alors je commence par ça parce qu'en fait avant d'avoir des scientifiques, on avait effectivement des philosophes de la nature, parce que la science demande un certain niveau d'abstraction, parce que lorsqu'on veut faire avancer la science, en fait on formule des hypothèses qu'on formule de manière logique et qu'on vient ensuite essayer de démonter avec des expériences scientifiques, ce qu'on appelle la voie négative, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse et puis ensuite si on trouve quelque chose qui invalide l'hypothèse, eh bien en fait on va pouvoir affiner cette hypothèse et faire avancer la science comme ça. Et donc dans cette abstraction et ce raisonnement logique, la philosophie a également une part belle du gâteau. Et donc effectivement, comme tu le disais, les scientifiques d'antan, c'était des personnages extrêmement pluridisciplinaires et qui mettaient cette logique au service de différentes matières qu'on a aujourd'hui segmentées. Et du temps de Newton, on parlait pas du tout de scientifiques, on parlait de philosophes de la nature, et l'approche était plus empirique. Et donc, elle se concentrait essentiellement sur l'observation des phénomènes naturels, la formulation d'hypothèses et la formulation, effectivement, d'expériences pour démontrer ou infirmer ces hypothèses.
Donc ces fameux philosophes dont tu viens de parler, et tu viens de citer Newton, parlaient du champignon comme un chef d'orchestre majeur, apparemment, c'est ça?
Oui, le champignon, en fait, c'est quelque chose qui a pour moi un peu disparu de notre culture européenne. Et mon hypothèse à moi, c'est que justement, cette chasse aux sorcières qu'on a fait au Moyen-Âge a contribué, en fait, à éliminer les savoirs fongiques. Parce que probablement que les gens qui étaient détenteurs de ces savoirs, c'était les guérisseurs assimilés à la sorcellerie à cette époque. Et donc, il y a eu une rupture, finalement, de la civilisation occidentale avec les savoirs fongiques, ce qui n'est pas le cas par exemple en Orient, et donc dans la médecine traditionnelle chinoise, le Kampo qui est l'adaptation japonaise de la médecine traditionnelle chinoise, même les pays de l'Est de l'Europe, eh bien les champignons étaient des partenaires privilégiés pour nos cultures et nos civilisations.
D'accord, ça c'est bien retenu ton histoire de chasse aux sorcières qui nous a tellement coûté, dont parle beaucoup Mona Chollet dans ses célèbres livres. Mais si j'en reviens à ta présentation, je vois ce mot-clé de chef d'orchestre. Dans ce chapitre sur la philosophie du mycélium, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors je vais commencer par une petite citation de Auguste Comte qui disait que les philosophes sont les spécialistes des généralités. Et donc l'idée de cette philosophie de la nature, c'est de partir de généralités, c'est-à-dire par exemple la forme de réseau inhérente au mycélium, c'est de regarder cette forme de mycélium et d'essayer d'en tirer des conclusions, d'essayer de regarder un petit peu l'impact que ça a. Et donc cette forme ramifiée de fractale, un petit peu, on la retrouve dans la nature dans d'autres endroits. Hein. Je pense à la forme des racines, je pense à la forme des arbres, je pense à nos arbres pulmonaires, de nos ramifications sanguines. Et cette forme de réseau, en fait, elle a pour objectif d'essayer de réduire le temps et l'espace. Le réseau, en fait, c'est une forme qui va permettre de connecter entre elles deux points et donc de réduire en fait l'impact du temps et l'espace. C'est une forme qui est très catalytique. Le champignon, il vient catalyser justement l'émergence de la vie sur Terre. C'est une règle en fait assez globale dans le vivant. Comme tu le disais, la planète, elle a 4,6 milliards d'années. L'émergence de la vie débute autour de 4 milliards d'années. Et puis, pendant des milliards d'années, il se passe, entre guillemets, quasiment rien. Et c'est finalement sur le dernier milliard d'années qu'on vient l'explosion de formes de vie complexes dont nous sommes l'émergence aujourd'hui, et le genre Homo aurait, il me semble, 3 millions d'années, ce qui est très très faible par rapport à d'autres organismes.
Un battement de cils dans l'histoire du vivant, en effet. Guillaume, dans ta belle conf, tu dis que on est toujours dans cette philosophie du mycélium, hein, pour finir notre première série. Il y en aura d'autres, évidemment, il y a tellement de choses à dire sur les champignons. Je donne vraiment rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent, parce que là, ce ne sont que les bases qui sont déjà passionnantes. Mais alors le reste, c'est vraiment, ça va nous emmener sur Mars, hein, ou plus loin.
Absolument, ouais.
Tu dis dans cette belle conf, dans cette philosophie du mycélium, que justement le mycélium explore, distribue et échange. Ça rejoint ce que tu disais précédemment, mais j'aime bien ces trois mots qui résument bien.
Oui, tout à fait. Le mycélium explore, parce que cette forme de ramification est tout à fait opportune pour cette exploration, et c'est d'ailleurs une source d'inspiration aujourd'hui pour des technologies dont on reparlera dans des épisodes prochains. Le mycélium distribue parce que c'est une plateforme d'échange, un petit peu comme Internet qui est également un réseau, distribue l'information. Et puis enfin, le mycélium échange, c'est-à-dire que ben il va permettre à deux acteurs du réseau de pouvoir comme ça s'échanger des services à une vitesse qui va être donc accélérée.
Guillaume, une autre expression que j'ai entendue dans ta conf, c'est tu dis que le monde fongique est l'oublié de la biologie. Bon, ça, on l'a dit à mille reprises, mais tu fais une comparaison avec le triskel. Tu parles de ces grandes manières de diviser les choses en trois, le passé, le présent, le futur, ça fait trois choses. La trinité, quels sont les liens que tu fais avec le triskel?
Oui, dans cette optique philosophique d'observer les généralités, la manifestation physique de la vie s'effectue souvent sous trois principes. Lorsqu'on marche, en fait, il y a une impulsion, une suspension et puis un atterrissage. Notre cerveau est fait de trois couches, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex préfrontal. Dans les temps qu'on utilise, effectivement, il y a le passé, le présent, le futur. Et puis, en fait, notre vision de la biologie, elle me semble assez biaisée si on n'y intègre pas les champignons, parce que notre civilisation aujourd'hui a plutôt bien intégré le fait qu'on a des animaux, on a des plantes, mais on n'a pas encore du tout intégré le règne fongique dans notre appréhension globale de la vie. Ça me semble faire défaut. Et en fait, le chiffre 3 étant un chiffre de stabilité, hein, puisque lorsqu'on a une encre, l'encre s'ancre sur trois points. Lorsqu'on a un tabouret, il commence à être stable à partir de trois pieds. Eh bien, le triskel, la trinité étant un chiffre d'ancrage, ça me semble être tout à fait opportun de parler des champignons pour rééquilibrer notre vision du vivant. Parce que sans ça, notre vision déséquilibrée du vivant pourrait nous faire croire que le vivant est imparfait, et ça nous mène aux extrêmes qu'on voit aujourd'hui de cette philosophie du transhumanisme un petit peu, où on viendrait corriger la nature parce que la nature serait imparfaite, et ce qui me semble tout à fait le contraire en fait.
Elle est prodigieuse ta conf, parce que tu nous expliques ce qu'est l'unité, la dualité et la trinité. J'ai envie de passer pareil un petit moment là-dessus, c'est fabuleux ce que tu expliques là, sur ces questions.
Oui, bah écoute, on peut effectivement partir là-dessus. Plus je m'interroge sur ces choses-là, plus en fait ma certitude disparaît. Et là encore, c'est quelque chose de très socratique finalement, de ne pas avoir de certitude. Et ne pas avoir de certitude, ça incite également à l'humilité, ce qui me semble encore une fois très bénéfique dans la protection du vivant, rester humble vis-à-vis des phénomènes de la nature. Et donc l'unité, en fait, ça serait ce point de rassemblement de toutes les choses, cette union commune des choses, qui soient physiques et puis même spirituelles et voilà sur d'autres sphères. Et donc en fait, ça serait la racine commune des choses, ce que Spinoza appelait réellement Dieu, et ce Dieu dont Albert Einstein disait être, comment dire, un adepte, hein, parce qu'Albert Einstein disait « Dites-moi ce que vous considérez comme Dieu et je vous dirai si j'y crois ». Et il disait que notamment il croyait au Dieu de Spinoza, cette unité, cette force créatrice, autant que destructrice d'ailleurs. Donc la création et la destruction, ça nous renvoie justement à notre couple autotrophe hétérotrophe, et ça parle également du champignon.
Oui, alors tu viens de parler de l'unité. La dualité, tu dis que c'est une expression, typiquement entre le passé et le futur, par exemple, et tu dis que la trinité est un ancrage, une stabilité, cœur, corps et esprit, par exemple. Mais c'est génial, mais t'es un vrai philosophe, toi aussi.
Écoute, dans cette optique autodidacte, je me mets aucune barrière, et donc tout ce qui connecte, je l'étudie et j'essaye d'en faire part dans mon discours.
Philosophie du mycélium suite, tu parles de compétition circulaire. Et là, tu parles des bactéries prolifiques, résistantes et toxiques. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par cette compétition circulaire? En quoi nous aident les champignons?
Eh ben, en fait, c'est une application directe de ce que j'expliquais juste avant, d'avoir une vision qui est donc déséquilibrée du vivant si on ne se base que sur deux acteurs. En fait, c'est l'exemple d'une boîte de pétri dans lequel en fait on va mettre une bactérie qui est extrêmement prolifique et qui va donc rapidement coloniser toute cette boîte de pétri. Et en fait, si on ajoute dans cette boîte de pétri une bactérie toxique qui va sécréter donc une toxine qui va du coup mettre une partie de son énergie au profit de la création de cette toxine, eh bien même si elle est moins prolifique, elle va quand même finir par gagner sur la bactérie prolifique parce qu'elle va sécréter cette toxine qui va la détruire. Et en fait, si on arrive à ajouter dedans une bactérie qui va, elle, mettre une partie de son énergie non pas au service de la fabrication d'une toxine, mais au service de la fabrication d'un antibiotique, on va trouver en fait un équilibre dans la boîte de pétri, parce qu'en fait, on va avoir un jeu de pierre-feuille-ciseau un petit peu qui va se mettre en place, où la bactérie prolifique va être en défaveur vis-à-vis de la bactérie qui va fabriquer la toxine, mais la bactérie qui va fabriquer la toxine va être en défaveur vis-à-vis de la bactérie qui va fabriquer l'antibiotique, puisque ça va du coup annuler son super pouvoir à elle, mais que la bactérie qui fabriquerait l'antibiotique, en fait, elle dépenserait cette énergie inutilement vis-à-vis de la bactérie prolifique, elle ne va pas sécréter de toxine. Donc on a cet équilibre des forces qui va prendre place lorsqu'on regarde les choses avec ce fameux triskel. Et en fait, cet équilibre des forces, on a tendance à passer à côté lorsqu'on fait des expériences scientifiques, parce que justement, la science cherche à disséquer, et elle cherche en fait à isoler deux acteurs d'une réaction. Mais dans la nature, il y a rarement que deux acteurs à une réaction, il y a toujours une multitude, une foultitude même d'acteurs. Et donc, la nature est passée experte à trouver ce point d'équilibre.
Guillaume, pour finir, tu as une autre énorme ref culturelle. Tu parles d'avatar et tu parles de Heiwa et de Heiwa. Alors, ça s'écrit pas pareil, mais en gros, ça parle de l'interconnexion des choses. Tous ceux qui ont vu Avatar, quoi qu'on pense du film, de l'histoire, etc., il y a un récit de base derrière et toi, tu en parles dans ce cours. Pourquoi ?
Pour moi, c'est l'importance culturelle du récit et le fait qu'une œuvre artistique cinématographique, de science-fiction, comme ça, en fait, finalement, l'art s'inspire de la réalité et la réalité s'inspire de l'art. Et ça me semble tout à fait illustrer ça parce qu'en fait, Heiwa, James Cameron, pour la créer, s'est inspiré justement du réseau mycorhizien, le fameux Wood Wide Web, dont tu as parlé rapidement tout à l'heure. Ce réseau d'échange, en fait, qui prend place entre les plantes, les champignons et tout un tas d'autres acteurs. Et donc, EIWA, en fait, c'est cette unité de conscience au travers de la planète. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, en fait, avait été théorisé par James Lovelock, qui avait, en fait, identifié que, finalement, on pourrait se représenter notre planète comme un super organisme qui maintient des cycles géobiologiques, qui maintient également une température stable. Et donc, cette planète qui serait donc un super organisme qu'il appelle Gaïa. Donc, il a appelé cette hypothèse de ce nom-là, l'hypothèse Gaïa. Je fais un parallèle avec ça, avec le japonais, en fait, parce que, comme je le disais en introduction, je suis allé vivre au Japon. Et au Japon, en fait, l'harmonie se dit Heiwa. Heiwa, et en fait, Heiwa, c'est le symbole de l'harmonie au Japon, c'est le cercle. C'est pour ça qu'on dit Yubiwa. Yubiwa, c'est la bague, en fait. Yubi, c'est le doigt, et wa, c'est le cercle. Donc, le cercle de doigt, c'est la bague. Et le cercle, en fait, c'est cette forme qui ne crée finalement aucun déchet. C'est cette forme qui manifeste le tout également. Donc là encore, il y a plein de parallèles philosophiques à faire. Et donc, je trouve ça très beau, en fait, qu'il y ait des œuvres comme ça cinématographiques qui mettent en avant l'harmonie dans nos environnements. Et d'ailleurs, Avatar n'est pas la seule. Tolkien s'est inspiré également de la symbiose mycorhizienne dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, en fait, pour Tolkien, le personnage principal ou le héros du Seigneur des Anneaux, c'était Sam Gamgee. Parce que Sam était un personnage tellement pur qu'il était capable de résister à la corruption de l'anneau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dame Galadriel, lorsque les Hobbits la rencontrent, Dame Galadriel, en fait, dans le livre, donne à Sam une poudre de perlimpinpin, si je puis dire, et lui dit « Écoute Sam, ça c'est un présent que je t'offre, qui n'aura probablement aucune utilité dans ta quête, mais si d'aventure tu réussissais et que tu retournais dans la comté, sache qu'en répandant cette poudre du sol issu de mon verger, ton jardin fleurira comme nul autre des jardins de la terre du milieu. » Et donc c'est ce que fait Sam après son retour dans la comté, et en fait il constate comme ça les effets magiques sur la croissance des végétaux. Et Tolkien, en fait, avait entendu parler des travaux d'Albert Frank, le biologiste qui a donc inventé ce terme de mycorhize et également le terme de symbiose, qui donc avait mis en lumière comme ça le fait que les truffes n'étaient pas un parasite du chêne, mais bien un être qui venait coopérer avec l'arbre.
Écoute, je suis très ému parce que ce que tu dis est merveilleux. J'ai juste envie d'ajouter, moi je suis comme toi, je suis très attentif aux détails. Et moi, c'est vraiment la Guerre des Étoiles qui m'a fait grandir. Mais aussi, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux. Et comme tu le sais, il y a un personnage dans la Guerre des Étoiles qui s'appelle Yoda. Et Yoda, en hébreu, alors moi je suis plus sensible à l'hébreu, mais c'est juste une question de voyage qu'on a fait ou pas. Yoda, ça veut dire la sagesse. C'est la racine pour sagesse en hébreu. Et là, j'ai bu tes paroles sur la bague, sur Heiwa, ce mot japonais. Donc merci pour ça, c'est merveilleux cet échange. Il y a deux petites baleines sous la grosse baleine du gravillon en ce moment qui se parlent. Guillaume, on a fini ce premier cycle d'épisodes sur les champignons avec toi. C'était un marathon d'enregistrement, mais on a parcouru non seulement les bases, mais aussi on a fini magnifiquement avec ces notions presque de philosophie de vie que tu as partagé avec nous. Je te remercie infiniment. J'ai rarement été aussi ému en faisant une émission, je le dis, c'est assez rare que je le fasse. Donc merci pour ta patience. On te retrouve très vite pour un nouveau cycle dédié aux champignons. Dieu sait qu'on n'a pas fini de faire le tour. On n'a même pas commencé à faire le tour que je qualifierais de pratique concernant les champignons. On n'a pas parlé du LSD. On n'a pas parlé de mille choses. Par quoi tu voudrais nous allécher, nous donner rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent? De quoi on va parler dans la suite de notre cycle, Guillaume?
Je pense qu'on peut parler plus en profondeur des rôles écologiques des champignons. Comment est-ce qu'ils font pour opérer littéralement notre planète, hein, parce que ce sont les ingénieurs des écosystèmes. On va parler également de tout ce qui est psychédélique, parce qu'on a une révolution culturelle qui est en cours à ce niveau, et qu'on verra que l'ancrage des psychédéliques est bien plus profond que ce qu'on pourrait imaginer. On va parler également de comment on pourrait en fait créer cette fameuse civilisation fongique, et comment est-ce qu'on pourrait en fait se guérir de nos maux actuels grâce aux champignons, et en s'imaginant par exemple des systèmes agricoles de demain qui prendraient en compte ce fameux équilibre, ce fameux triskel entre plantes, animaux et champignons.
Je donne un petit chiffre pour faire comprendre l'importance des champignons, un chiffre parmi tant d'autres. Apparemment, les champignons rejetteraient 80 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, donc ils n'ont pas que des rôles positifs, hein, malgré tout, alors que l'humanité n'en dégagerait que 10 gigatonnes par an. 10 versus 80, c'est juste pour faire prendre conscience de l'importance, ne serait-ce qu'en volume, en poids, des champignons dans notre vie. Tous ces aspects, on va les voir avec toi dans les prochains cycles. Merci beaucoup pour tes lumières. Je suis très impatient de continuer cette série avec toi. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
Avec grand plaisir, Marc. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.